Bonsoir à tous. Le cyclone Belal a donc traversé la Réunion aujourd'hui. Témoignage dans un instant d'un blessuré qui vit sur place depuis maintenant plusieurs années. Elle a dû revenir en catastrophe en France. La Moléonnaise Justine Debar a dû quitter précipitamment l'Équateur en raison des tensions qui y règnent alors qu'elle y réalisait un stage. Les vœux du maire de Thouars tout récemment, vœux sur fond de chantier aux quatre coins de la ville. La bressuraise Lucie Rapin, sélectionnée au niveau national pour suivre la flamme olympique, reste à savoir quand et où. Présidente de l'ADMR Niort Nord et de Montcoutant-sur-Sèvre, mais également de l'ADMR des Deux-Sèvres, Rosane Baratto est aussi désormais la présidente de l'association au niveau régional.
La météo à la suite du journal avec une domination des nuages pour demain.
Grave accident de la circulation ce matin à Viennet en Gâtine. Pour une raison inconnue, un scooter sur lequel se trouvaient deux adolescents de 14 et 15 ans est entré en collision avec un poids lourd peu avant 9h. Les deux jeunes ont été très sérieusement blessés et évacués vers l'hôpital Nord de Sèvres en urgence absolue. Le chauffeur du camion n'a lui pas été blessé. Le service des urgences de l'hôpital Nord de Sèvres a connu, comme d'autres services d'urgence, une période de très forte tension la dernière quinzaine de décembre et en ce début du mois de janvier, avec un nombre important de personnes en attente d'hospitalisation. Dans ce contexte, le plan blanc est activé. La direction a mis en place plusieurs actions pour améliorer la prise en charge des patients en lien avec le déclenchement de ce plan. Renfort en personnel aux urgences, réouverture de 6 lits en médecine grâce à la mobilisation des équipes médicales et paramédicales, ou encore recrutement d'une assistante sociale dédiée aux urgences et mise en place d'un gestionnaire de parcours pour fluidifier la prise en charge. Conséquence, depuis quelques jours, la situation s'est améliorée en termes de flux de patients au sein du centre hospitalier Nord de Sèvres, plus particulièrement des urgences. Le cyclone tropical Belal a donc frappé ce matin l'île de la Réunion, alors en alerte maximale et dont la population devait rester confinée. Des vents extrêmement violents et les premiers dégâts avaient déjà été constatés avant que l'œil ne touche l'île. Le préfet avait déclenché, je vous le rappelle, l'alerte violette cyclonique, le plus haut niveau, synonyme de danger imminent, en confinant aussi bien la population que les services de secours et de sécurité. Finalement, en début d'après-midi aujourd'hui, la Réunion est repassée en alerte rouge. Les services de secours, et eux seuls, sont donc à nouveau autorisés à circuler sur l'île. Écoutez le témoignage du bressuré Olivier Laborie, expatrié sur l'île depuis maintenant 6 ans.
C'est hyper stressant. On ne sait pas quand ça va s'arrêter. Il y a des moments où les températures, le vent est très très chaud. Il n'y a plus de vent. D'un seul coup, il fait froid. On ne sait pas. Alors, on s'informe. La radio, quand elle fonctionne, parce que il y a eu des gros moments de coupure, on n'avait plus d'infos du tout. Là, on sait que maintenant, on est hors de danger. On est toujours en alerte. Moi, la pergola, c'est moitié envolée. Ça fait un peu pas mal de dégâts dans le jardin. J'avais des bananiers à la maison, ils sont tous à terre. Mais bon, après, voilà, il suffit de rester confiné. Là, ça s'est sérieusement calmé, parce que le cyclone s'en va sur Maurice, eux, ils sont en alerte maintenant. Maintenant, on fait le tour des voisinages et puis on regarde les dégâts chez les uns chez les autres pour aider les voisins quoi, à déplier s'il y a des branches et tout ça. Alors, Météo France a émis l'alerte quand même avec un sérieux doute qu'il pouvait faire demi-tour. Mais bon, après, voilà, ça reste à confirmer. Après, moi, je suis pas météorologue, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais bon, c'est ce que les bulletins météo disent et voilà, il peut éventuellement faire demi-tour.
Le témoignage du bressuré Olivier Laborie, domicilié sur l'île de la Réunion après le passage ce lundi du cyclone Belal, cyclone qui frappe en ce moment l'île Maurice.
L'Équateur retrouve une situation plus normale après une semaine de chaos.
L'armée et la police équatorienne ont repris dimanche le contrôle de plusieurs prisons et libéré plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire, otages de mutins, ramenant le pays à une certaine normalité sur fond de guerre ouverte ces derniers jours entre les bandes criminelles liées au trafic de drogue et les forces de sécurité. Une jeune moléonnaise de 22 ans a quitté le pays précipitamment alors qu'elle était arrivée mi-décembre pour un stage. Justine Debar est en école d'ingénieur à Nancy et s'était envolée vers ce pays d'Amérique du Sud pour un stage à l'école polytechnique et elle travaillait parallèlement au musée d'histoire naturelle à Quito, également dans la capitale.
Il y a le criminel numéro 1 d'Équateur qui s'est enfui de la prison de Guayaquil, donc à 8 heures de Quito environ. C'était arrivé dimanche et lundi, c'était assez calme. Même si on sentait qu'il y avait une petite tension, ça allait. Et mardi, du coup, vers 14 heures, il y a un gang armé qui est rentré sur un plateau télé à Guayaquil et à partir de là, tout le monde s'est mis à paniquer. La ville, c'était tout le monde devait partir plus tôt du travail, rentrer, couvre-feu, état d'urgence. tout la totale. Tout le monde était dans des bouchons, tout le monde courait pour rentrer. Donc du coup, j'ai été raccompagnée par un autre stagiaire qui est équatorien. Il m'a ramené jusqu'à ma maison en bus pour être sûr que je rentre bien.
Et alors le retour en France s'est déroulé comment? Ça a dû être un peu épique aussi.
Ouais, du coup j'ai pris un billet d'avion quasiment le jour même pour rentrer parce que je voulais pas me retrouver bloquée. Je savais pas s'ils allaient bloquer les frontières ou quoi, donc j'ai pris direct mon billet d'avion.
Justine Debar exprime des regrets sur cette situation en Équateur, un pays qu'elle a eu très peu le temps de découvrir, mais qui est gangréné par le trafic de drogue. En année de césure dans ses études, elle est contrainte de revoir ses plans.
Oui, parce que le pays est vraiment incroyable, si on met à part ça. Mais ouais, vraiment, c'était super, j'ai adoré, c'était une super belle aventure. Mais ouais, dans quelques années, si le climat se calme, je pense que j'y retournerai.
Et alors la suite maintenant, comment tu vas organiser ton début d'année 2024?
Du coup, je revois tout mon projet et je vais rejoindre une amie d'école qui fait du woofing en France. On fait à peu près 2 semaines dans dans une ferme et après on bouge. Donc là, je vais prendre quelques jours pour me reposer ici. Et puis après, je vais la rejoindre soit en Corrèze, soit dans le Cantal. Et puis après, on va faire 2 ou 3 autres missions.
Et ce sera donc beaucoup moins risqué pour cette jeune Moléonnaise, Justine Debar, rencontrée par Vincent Nori.
Les vœux des chantiers à réussir pour Bernard Pénoatoire.
Déjà présent autour des futures pistes cyclables, les engins de chantier devraient voir leur nombre augmenter significativement en ville par le télescopage des grands projets. Cette perspective enchante le maire Bernard Pénaud, également président de l'intercommunalité du Touarçais. Son bilan d'étape au micro-colline de notre correspondant sur place, Dominique Hérault.
Ce qui est remarquable en ce moment et qui se voit comme l'année au milieu de la figure, c'est les travaux sur les 7 km de pistes cyclables. Ça bat son plein. Il y a toute une partie qui sera terminée au printemps 2024, puis le reste plutôt vers la fin de l'année 2024. Ce qui commence, c'est la médiathèque intercommunale, mais qui est extrêmement visible au cœur de la ville. 1400 m² de surface, on est sur un équipement important. Donc ça commence maintenant et puis ça se termine le septembre 2025. L'aménagement des grandes places Flandre-Dunkerque, place Lavaux, place du Boël, 3 hectares là en plein milieu de la ville, c'est le sujet 2024. On va voir naître dans le premier trimestre là la forme définitive et on va pouvoir présenter des choses plus fiables qu'un programme. Pour faire court, on pourrait imaginer d'avoir validé ça dans le premier trimestre et puis d'engager les travaux plus tard au 1er septembre. Donc on est là sur quelque chose qui va redonner de l'attractivité aussi à la ville, hein, comme ça l'a été pour la rue Porte de Paris, le cinéma. Dans le même état d'esprit qualitatif, les grues et les pelleteuses vont être à tous les bouts de la ville. C'est un moment difficile aussi à gérer, mais qui vaut le coup.
Sur le plan arithmétique, les élus additionnent les chiffres pour arriver à près de 20 millions d'euros au total sur plusieurs années. Et malgré les subventions pour alléger la dépense, certains Touarçais se demandent s'ils ne vont pas manger la grenouille. Bernard Pénaud.
Ce qui permet d'emmener tous ces projets, c'est la rigueur budgétaire. C'est un peu ma marque de fabrique, hein. Mutualiser nos moyens pour que ça coûte moins cher et être rigoureux sur des dépenses utiles. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il y a plusieurs porteurs de projets. Il y a donc des projets qui sont communautaires et qui structurent, comme la médiathèque, comme l'a été le cinéma. Mais il y a des projets qui sont communaux. Je surveille comme le lait sur le feu les ratios de capacité de désendettement des deux collectivités. Et aujourd'hui, on le voit, il n'y a pas de dérapage budgétaire. Il y a juste une audace et une ambition de développement et d'attractivité.
En somme, les marteaux-piqueurs et les pelleteuses ont de l'avenir localement pour rehausser la qualité de vie et l'utilisation du cœur de ville. Une fois qu'ils auront libéré l'espace, c'est à ce moment-là que les Touarçais pourront juger. Reportage signé Dominique Hérault.
Rosane Baraton devient présidente régionale de l'ADMR.
Présidente de l'ADMR Niort-Nord et Montcoutant-sur-Sèvre et de l'ADMR en Deux-Sèvres depuis une petite quinzaine d'années, Rosane Baraton accentue encore son engagement et vient d'être élue présidente du comité régional de l'association d'aide à domicile en milieu rural de Nouvelle-Aquitaine. La formation est l'enjeu principal pour Rosane Baraton pour faire face aux problèmes de recrutement.
Moi, ce qui m'importait, c'était lancer une académie de formation ADMR. Donc là, on a un immeuble sur Parthenay, où nous avons notre service famille et un service INSAM, le Nord-Gâtine, et nous allons équiper un appartement témoin afin de commencer des formations. Mais les Pyrénées-Atlantiques vont commencer en même temps aussi la Vienne à Neuville-le-Poitou. On pourra former du personnel avec l'ADN de la DMR, et ça, ça nous semble important. Quand on va au domicile de la personne, il faut avoir des capacités d'écoute, de faire, de repérage quand il y a des problématiques, autant pour l'aide ménagère que pour faire l'accompagnement, pour l'aide au repas, etc. Et autant pour l'auxiliaire de vie qui va être là pour le quotidien de la personne, entre la toilette et tout. Je rappelle aussi que de plus en plus, les personnes restent à domicile. Les fins de vie se font de plus en plus à domicile. Donc, on a besoin aussi de personnes qualifiées, compétentes, et que les personnes se sentent à l'aise avec des outils qui leur donnent la force de pouvoir faire les choses.
Et pour être attractif, la DMR a fait une avancée importante concernant les primes Ségur pour les SIAD, les services de soins infirmiers à domicile, dont les salariés vont pouvoir toucher cette prime de 183 euros par mois, ce qui n'est pas le cas pour les SAD, services d'aide et d'accompagnement à domicile. À noter que la DMR réfléchit aussi sur le travail décalé et les amplitudes horaires qui sont un véritable frein au recrutement.
On le fait sur deux associations dont j'ai la présidence, sur le Niort Nord et sur Niort. On a commencé à faire des horaires du matin et des horaires d'après-midi. C'est-à-dire qu'elle travaille deux semaines de 7h à 15h et une autre semaine de 10h30 à 14h. Et après, elles refont la tournée du soir, un week-end sur trois. Donc, on essaie de faire au maximum. Je pense que ça sera l'avenir. Mais pour pouvoir continuer à instaurer ces horaires-là, il nous faut du personnel, parce que bien sûr, il nous faut beaucoup plus de personnel pour monter les plannings.
Rosane Baraton, présidente de l'ADMR des Deux-Sèvres, désormais aussi à la tête de la Fédération régionale de Nouvelle-Aquitaine. Les noms des premiers porteurs de la femme olympique en Deux-Sèvres ont été dévoilés cet après-midi. Ils ont été sélectionnés par le comité d'organisation des JO sur proposition du conseil départemental. Ils seront l'équipe du département pour porter la flamme, chacun sur une distance moyenne de 200 mètres. Il s'agit de Pauline Cuc, âgée de 19 ans, judokate au niveau de haut niveau, Laurence Prévost, 23 ans, qui pratique le basket fauteuil, Perrine Marcheteau, bénévole à la Croix-Rouge, âgée de 18 ans, la jeune sapeur-pompier de 17 ans, Charles G, Romain Allard, âgé de 20 ans, apprenti à la direction de l'informatique du département, et Alexandre Frappereau, arbitre de football de haut niveau, âgé lui de 24 ans, Lilou Chalet et Mathis Elias, tous deux jeunes sapeurs-pompiers, ainsi que Mélissa Clavier, qui a intégré le pôle espoir de talents en basket fauteuil, sont en lice pour apporter la flamme au cas où l'un des titulaires ne pourrait pas le faire. Et puis au niveau national, les noms ont aussi été dévoilés ce lundi. Ils sont 11 000 à avoir été retenus par le comité d'organisation après qu'ils aient fait acte de candidature pour être de la partie, salariés auprès de plusieurs associations, notamment pour leur communication. La bressuraise Lucie Rapin sera de la fête.
On dépose une candidature indirectement et on nous demande effectivement nos ambitions, nos passions, ce qui nous amène aussi à vouloir porter ces valeurs-là de l'olympisme. Donc c'est un petit peu un petit résumé vraiment pour se définir soi, mais aussi définir ton envie de porter la flamme olympique. Ce matin, j'ai reçu un email le confirmant, donc à ce moment-là déjà, j'ai le cœur qui a battu un petit peu plus fort que d'habitude. Et puis voilà, après j'ai pas beaucoup d'informations pour le moment, mais en tout cas je sais que je suis sélectionnée. J'ai pas encore la date et la ville où je vais porter la flamme, mais en tout cas j'attends ça avec impatience. Alors j'ai candidaté pour les Deux-Sèvres. Après je sais pas du tout comment se passe la sélection, si j'essaie de respecter un petit peu la localisation ou si je peux être amenée à voyager un petit peu. Donc ça j'en saurai un peu plus tard. Je crois que c'est sur la fin mars qu'on aura un peu plus d'informations. En fait, il y a un athlète qui, on va dire, mène un petit peu les avant, et après des particuliers qui suivent ce sportif professionnel à la suite.
La bressuraise Lucie Rapin, sélectionnée donc au niveau national pour suivre sur quelques centaines de mètres la flamme olympique. C'est donc dans un peu plus de deux mois que l'on devrait connaître le parcours qu'on peintra la jeune femme aux côtés du symbole de l'olympisme. Un petit mot de football pour vous indiquer que la rencontre entre les Chamois-Niortais et la Berrichonne, prévue ce vendredi 19 janvier dans le cadre de la 18e journée de National, est reportée au 26 janvier 19h30. Châteauroux, toujours en lice en Coupe de France, affrontera en effet le Havre en 16e de finale ce dimanche 21 janvier. Reste pour rester dans le rythme, et après avoir bien négocié leur entrée en lice en 2024 avec une victoire sur pelouse du Mans en fin de semaine dernière, les Niortais disputeront un match amical. Ce sera ce vendredi 19 janvier contre Angoulême pour sonner de National 2.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Des éclaircies qui sont arrivées en milieu de journée.
Et nous terminons cette journée sous un ciel relativement dégagé, mais les nuages envahiront de nouveau notre ciel durant la nuit prochaine, sans apporter cependant de précipitations. Les températures, moins 1, moins 3 degrés demain au petit matin, 2 à 5 au mieux de l'après-midi. Et avec ces températures négatives du début de journée, des portions de route qui pourront rester humides. Il faudra être vigilant au volant demain matin. On nous prévoit de la pluie à partir de la soirée de demain. Le vent tournera au sud pendant la nuit de mardi à mercredi et commencera à souffler fort. On nous annonce en effet un temps très agité pour mercredi à venir.
Merci beaucoup Patrice, c'est tout pour l'actu après chez nous ce lundi. Retour demain matin
à 7h02 avec Fabien Gazot. Très belle soirée avec Colline. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain 18h.
C'était la météo avec Seolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.